Lecture du livre du prophète Isaïe. Le désert est la terre de la soif, qu'il se réjouisse. Le pays aride, qu'il exulte et fleurit comme la rose, qu'il se couvre de fleurs des champs, qu'il exulte et crie de joie. La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiante, affermissez les genoux qui fléchissent. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Assilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors, le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Ceux qu'a libérés le Seigneur reviennent. Ils entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l'éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront, douleur et plainte s'enfuient. Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre de Saint Jacques. Lecture de la lettre de Frère. En attendant la venue du Seigneur, prenez patience. Voyez le cultivateur. Il attend les fruits précieux de la terre avec patience, jusqu'à ce qu'il ait fait la récolte précoce et la récolte tardive. Prenez patience et tenez ferme, car la venue du Seigneur est proche. Frère, ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne serez pas jugés. Voyez, le juge est à notre porte. Frères, prenez pour modèle d'endurance et de patience qui ont parlé au nom de notre Seigneur. Parole du Seigneur.
Alléluia.
Le Seigneur est
avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu.
Gloire à toi,
En ce temps-là, Jean le Baptiste allait dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et par eux lui demanda « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit « Allez annoncer ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui n'a pas une occasion de chute. » Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean. « Qu'êtes-vous allé regarder au désert ? Un roseau agité par le vent ? Allez donc aller voir. Un homme habillé de façon raffinée ? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors, qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et prophète. C'est de lui qu'il est écrit. Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. Amen, je vous le dis. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que toi. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Jésus.
Que les enfants du primaire veuillent bien suivre le Père Jean-Christophe. Frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur qui vient soient toujours avec vous. En ce dimanche, nous sommes invités à la joie. Ce matin, j'ai envoyé un message, vous imaginez qu'il est français, et je lui ai demandé, est-ce que tu es dans la joie? Il m'a répondu, oui, je suis très dans la joie parce que la France a gagné. Voilà. Mais de nous aujourd'hui, la joie dont il s'agit, c'est celle qui prend sa source dans la perspective de la venue de Jésus-Christ que nous attendons. Je pourrais dire, malgré cette joie de la victoire de la France, n'est-ce pas, quand nous pensons aux troubles que traverse l'Église, quand nous pensons à l'état de notre monde, n'est-il pas légitime de se demander aujourd'hui si la joie à laquelle nous sommes appelés aujourd'hui est possible? Oui, la joie peut-elle jaillir d'un contexte de précarité et de souffrance avec ses doutes et ses inquiétudes? Comment donc savoir aujourd'hui que Dieu est à l'œuvre? Et pourtant, nous dit le prophète Isaïe dans la prière, le désert et la terre de la soif qu'ils se réjouissent. Le pays aride qu'il exulte et fleurisse comme la rose, qu'il se couvre de fleurs, de chants, qu'il exulte et crie de joie. N'est-ce pas très étonnant que la joie à laquelle nous sommes appelés, je dirais, soit en rapport avec le désert, la terre de la soif, le pays aride. Mais que le désert, la soif, l'aridité soient vaincus, comme le fait comprendre le prophète Isaïe, cette réalité nous invite à méditer sur ce que l'on pourrait appeler la vraie source de la joie. La vraie source de la joie pour nous qui attendons Noël. Et elle nous invite également à prendre conscience que dans notre attente, celui qui vient, celui qui mène toutes choses, est possible. Voilà pourquoi Isaïe continue. Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Son cri est un cri de foi, nous secouer et nous réveiller. Et nous l'avons aussi entendu dans l'évangile, Jésus qui dit aux envoyés justement de Jean le Baptiste, qui en prison, lui aussi dérouté, je dirais, par les actions de Jésus, ne comprenant pas bien ce qui se passe, demande, est-ce que nous devons un autre, ou bien c'est vraiment toi le Messie? parce qu'on a l'impression que rien ne change. Et Jésus leur dit, allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue. Les boiteux marchent, sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux, dit-il, celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. On pourrait comprendre qu'à travers sa réponse, je rends que la véritable joie réside dans ses actions à lui. Ses actions qui témoignent qui il est. Lui, Jésus, qui accueille, guérit, enseigne, qui soigne. Ses actions attestent qu'il est le signe de l'accomplissement de Dieu, des promesses divines. Qu'il est donc la source de la vraie joie. Pour nous qui sommes dans l'attente de Noël, nos regards sont orientés vers Jésus. La joie à laquelle nous sommes appelés aujourd'hui, c'est celle qui consiste bien sûr à épouser les mêmes actions de Dieu que lui, pardon. Parce que par son action, douleur et plainte s'enfuient. Jésus nous montre que le salut est en cours malgré les apparences contradictoires. Oui, face à nos doutes, face à nos peurs, Jésus par son action, à nous qui attendons les signes de la manifestation de Dieu, que chaque fois que le mal recule quelque part, le salut de Dieu avance. Dieu est à l'œuvre dans notre monde. Chaque fois que des gestes de bonté sont posés en faveur des défavorisés, des souffrants. C'est pour cela que face à nos inquiétudes, à nos doutes, il nous dit, comme aux envoyés de Jean, allez annoncer ce que vous entendez et voyez. Et par ces mots, il nous rejoint. Et comme Jean-Baptiste, comme les messagers de Jean-Baptiste, il fait de nous des messagers de l'espérance dans notre monde perdu et agité. Il nous montre que c'est précisément dans l'adversité que l'espérance chrétienne vient se loger, poussant à affirmer envers et contre tout qu'un chemin est toujours possible. Et nous le savons, cette espérance, cette foi ne relève pas seulement de l'optimisme ni d'une psychologie, mais elle relève de la certitude que le Christ lui-même a tracé un chemin là où il n'y en avait pas. Oui, l'optimisme se tarit vite, mais l'espérance chrétienne, en revanche, croit que Dieu est dans la main de Dieu. Et au moment où nous attendons justement notre Sauveur, je pourrais dire, malgré tout ce que nous vivons, cette espérance est celle qui doit nous porter. Parce que par son ordre, Jésus veut par nous faire reculer le mal. Aujourd'hui, fermir les mains défaillantes, les genoux trébuchants, chancelants, apaiser les esprits affolés. En ce temps de l'Avent, les paroles d'Isaïe, les paroles de Jésus engagent non seulement à un ajustement à la parole, mais elles nous font prendre conscience que nous, chrétiens, qui avons la foi, nous devons avoir un autre regard sur le monde et sur ces événements. Elles nous rappellent ce que Jésus nous disait, que nous sommes sel, levain et lumière de ce monde. Si le sel s'affadit, vous connaissez les conséquences. En ce sens, leurs paroles nous interrogent aujourd'hui. Lorsque Dieu entre dans ton histoire, quels sont les signes authentiques de son acte en tant que chrétien? Oui, si le royaume de Dieu est arrivé, comment toi, chrétien, en es-tu la manifestation aujourd'hui? Au final, face à nos peurs, à nos doutes, à nos inquiétudes, nous sommes renvoyés à nous-mêmes. Oui, toi qui te plains qu'il y ait de mal dans le monde, qu'as-tu fait et que fais-tu au quotidien pour qu'il y ait plus de justice, pour qu'il y ait plus de bien dans le monde? Qu'est-ce que tu donnes à voir à ceux qui te voient vivre? Est-ce que tu leur donnes de voir les signes de Jésus qui aide, qui soulage et qui sauve ou qui dit la bonne nouvelle? Parce que c'est de cela que la joie jaillit. Si donc par ce temps qui court, si notre foi vacille et que nos vies chancellent face, aux troubles de nos sociétés, n'est-ce pas donc pour nous qui nous disons chrétiens, donc dans la main de Dieu, n'est-ce pas que nous vivons très peu des sacrements qui sont justement le signe de la présence de Dieu et la source, de notre force au quotidien? N'est-ce pas alors que nous sommes peut-être dans une certaine pratique superficielle et peut-être d'autosatisfaction inconsciente, plus que dans un vrai désir de communion avec Dieu? Et n'est-il donc pas temps en ce temps de réveiller en rituel? Car frères et sœurs, notre monde aujourd'hui a besoin d'appui et de repères pour croire. Elle a besoin d'appui pour garder l'espérance. Et nous devons être cet appui. Il me semble que ce commentaire du pape François, citant un philosophe, est à méditer à nouveau frais. Voici ce que disait ce philosophe. Je ne comprends pas comment on peut croire aujourd'hui. Parce que ceux qui disent croire ont un visage de veille. Ils ne témoignent pas de la joie de la résurrection de Jésus-Christ. Et le pape de commenter. Tant de chrétiens ont ce visage. Oui, un visage de veillée funèbre. Le visage de la tristesse. Mais le Christ est ressuscité. Le Christ t'aime. Tu n'as pas de joie. Réfléchissons un peu à cela et demandons-nous. Est-ce que j'éprouve de la joie parce que le Seigneur est proche de moi? Parce que le Seigneur m'aime? Parce que le Seigneur m'a racheté? Autrement dit, sommes-nous aujourd'hui des chrétiens crédibles et convaincants? Parce que le dimanche du Gaudete, plus qu'un simple appel à la joie est une véritable méditation sur l'objet de notre foi, sur la vérité de notre croix, la cohérence de son expression dans nos dans. Nous sommes invités aujourd'hui à être vecteurs de joie. Mais nous le savons, il ne s'agit pas de n'importe quelle joie. Il s'agit de celle qui passe à travers l'épreuve. Ce n'est pas seulement un sentiment personnel, mais un don qui vient du Seigneur, qui est à recevoir et à partager. Une action qui est amenée dans un esprit de patience, de foi toujours renouvelée, comme nous y invite justement la deuxième lecture. Aujourd'hui, frères et sœurs, en regardant notre monde, oui, en regardant l'Église, accueillons l'espérance, vivons de l'espérance et avec audace, soyons la voix de l'espérance qui croit que le renouveau de la face de notre terre n'est pas une utopie, mais une réalité, parce que celui qui l'annonce et celui qui l'apporte est le Dieu de l'impossible. Pour cela, nous devons sortir d'une certaine logique d'efficacité, parce qu'il ne s'agit pas de notre œuvre, il s'agit de l'œuvre de Dieu à laquelle nous sommes invités à participer. Oui, donner la joie, mais cette joie qui vient de Dieu, il nous faut la recevoir avant de la donner. Nous participons à l'œuvre de Dieu. Pour cela, je nous invite à être comme les bâtisseurs de cathédrales. Oui, sur beaucoup de cathédrales, la construction a pris des années. Il me semble que pour Notre-Dame, pour ce qui est de sa forme définie, que voilà, les travaux se sont étalés sur près de 8 siècles. On peut imaginer le nombre de générations qui se sont succédées pour bâtir justement Notre-Dame dont nous héritons aujourd'hui. Or, aucun humain n'a un tel record de longévité. Et cela nous dit, bien sûr, l'esprit, cela nous dit tout de ces hommes et de ces femmes qui se sont lancés dans ces projets. Ce qui les animait avant tout, frères et sœurs, c'était la certitude inébranlable de participer à quelque chose qui les dépassait personnellement. Verrait-il l'aboutissement de ces travaux? Peu leur importait. Ils travaillaient avec Dieu. Et l'essentiel pour eux, l'immense joie qui était la leur, c'était de savoir justement qu'ils avaient été à différentes époques des maillons d'une œuvre grandiose qui glorifie Dieu à travers les siècles. Ces âmes, par leur foi et leur courage, leur patience, ils sont aujourd'hui pour nous des maîtres à imiter. Foi, patience, courage, nous disent-ils dans nos doutes, dans nos peurs. Écoutons ce conte pour prolonger un peu notre méditation. Un éléphant, dit-on, se trouvait au bord d'un ruisseau. L'eau était claire et transparente et il eut envie de boire. Il se pencha au-dessus de l'eau et entendit un bruit. Plouf! Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai perdu mon œil! Il commença à paniquer, à chercher dans l'eau en remuant. Mais plus il remuait, plus le sable montait. Et il remua tant et si bien que l'eau devint trouble. Et soudain, dans sa panique, il entendit un rire. C'était une petite grenouille verte qui, juchée au bord du ruisseau sur un rocher, riait à gorge déployée. Quoi, 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 quoi? Tu trouves ça drôle, toi? J'ai perdu mon œil et ça te fait rire? Ce qui est drôle, dit la petite grenouille verte, c'est de voir à quel point tu t'agites. Calme-toi et tout ira mieux. L'éléphant, un peu honteux, suit la petite grenouille. Il se calma et cessa d'agiter sa trompe. L'eau redevint calme et peu à peu, le sable retomba. Tout au fond du ruisseau, l'éléphant vit son œil intact. Il le saisit avec sa trompe et l'orbite à sa place, sans oublier, bien sûr, de remercier la petite grenouille verte. Frères et sœurs, ce conte, ce petit conte apparemment simpliste, renferme une grande sagesse. L'éléphant perd un œil, et ce n'est pas anodin. Cette eau troublée, cette agitation, ce désespoir, c'est ce qui nous arrive lorsque nous perdons pied et que notre désir de solution immédiate, notre précipitation, nous rend aveugles. Nous sommes momentanément incapables d'interpréter cette lucidité, ce qui nous entoure. Pour nous chrétiens, pour éviter, je dirais, une telle désorientation, nous avons une solution. Cette solution, c'est la foi en Dieu. Cette confiance inébranlable que Dieu est avec nous comme il nous l'a promis. Cette foi que la situation s'éclaire et que les nuages se dissipent. Si vous ne croyez pas, dit Isaïe, vous ne tiendrez pas. Oui, c'est la foi, frères et sœurs, qui est le fondement de l'espérance qui nous est demandée aujourd'hui. Cette espérance de laquelle jaillit la joie. C'est la foi qui nourrit d'espoir d'agir avec et pour le Seigneur. Alors aujourd'hui, demandons cette grâce d'une confiance toujours renouvelée dans le Seigneur. Demandons surtout la grâce qu'au sorti de cette messe, qu'étant fondée en lui, nous soyons les vrais témoins de la paix et de la joie pour nous sauver. Que le Seigneur nous accorde donc la grâce d'une vraie espérance qui nous fasse rayonner d'une joie qui transfigure. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.